Bienvenue dans les podcasts de l'Observatoire du bien-être. Aujourd'hui, une question que nous nous sommes tous posée au regard de notre propre parcours, mais aussi lorsque l'on s'interroge sur le futur de nos enfants. Cette question, la voici. Quel impact ont nos maîtres de primaire sur nos vies, nos études, nos comportements? Que devons-nous, en tant qu'adultes, aux enseignants dont nous avons croisé la route dans les petites classes? Bref, pour faire simple, est-ce qu'un bon prof, ça fait vraiment une différence? Un sujet d'étude sur lequel s'est penchée Sarah Flech, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Sarah est chercheuse au CNRS, au Centre d'économie de la Sorbonne, et membre du conseil scientifique de l'Observatoire du bien-être. Ce qui l'intéresse, comprendre les déterminants des inégalités économiques, et pour ça, elle observe l'influence du milieu familial, mais aussi de l'école et des institutions. Elle a notamment collaboré, aux côtés d'autres chercheurs de la London School of Economics, à une étude qui a débouché sur un livre intitulé « The Origins of Happiness, les origines du bonheur ». En s'appuyant sur des études qui ont suivi des enfants anglais sur plusieurs décennies, Sarah Flech nous dévoile aujourd'hui toute l'étendue de l'influence d'un enseignant sur un enfant, et autant dire que ça dépasse les simples notes. Un travail publié par l'Observatoire du bien-être, qui fait partie du CEPREMAP, Centre pour la recherche économique et ses applications. L'Observatoire soutient la recherche sur le bien-être subjectif en France et dans le monde, et son thème d'étude pour cette année 2021, c'est le bien-être des enfants et l'influence que peuvent avoir les aspects éducatifs. Sarah, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, une première question pour bien comprendre. Comment est-ce que vous avez pu étudier et mesurer les effets qu'ont les enseignants de primaire sur le parcours de leurs élèves ?
Alors, comme vous l'avez mentionné, c'est une étude qui est réalisée à partir de données de cohorte, c'est-à-dire que ça permet de suivre les enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 20 ans. Et en particulier, on observe les enseignants qu'ils ont eus à l'école primaire. Donc, c'est des données anglaises, mais l'équivalent en France, ça serait le CE1 et le CM2.
D'accord.
Et à partir de ces enseignants qu'on observe en CE1 et CM2, on peut calculer ce qu'on appelle des valeurs ajoutées. Donc c'est une méthode qui est largement utilisée en économie de l'éducation et qui consiste à regarder les notes de ses élèves à la fin de l'année précédente et les notes de ses élèves à la fin de l'année où ils ont eu cet enseignant,
ouais.
Et de regarder dans quelle mesure les élèves ont progressé au cours du temps. Et les enseignants, qui vont faire davantage progresser leurs élèves auront une valeur ajoutée supérieure aux enseignants qui vont faire peu ou pas progresser leurs élèves au cours de l'année. Donc c'est comme ça qu'on mesure l'effet enseignant.
Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça change vraiment quelque chose d'avoir un bon prof de maths, d'avoir des meilleures notes ?
Alors oui, ça change quelque chose. En fait, il y a deux manières de répondre à cette question. Premièrement, si on regarde donc ces mesures de valeur ajoutée par enseignant, on se rend compte qu'il y a une forte disparité entre les enseignants.
D'accord.
Il y a des enseignants qui vont être très bons, qui vont avoir une forte valeur ajoutée, d'autres moins bons. Si on regarde la différence entre, on va dire, un bon enseignant et un mauvais enseignant, on va avoir presque un point de moyenne de différence, par exemple, en
pour
maths.
Pour l'enfant, la moyenne de notes de l'enfant. D'accord.
Voilà, exactement, sur une échelle de 0 à 20. Une autre manière de répondre à la question, de dire pourquoi effectivement un enseignant, ça change les choses, c'est de comparer l'effet enseignant avec d'autres politiques qui ont pu être mises en place, par exemple la réduction de la taille des classes, améliorer la mixité au sein de la classe, etc. Et ce qui ressort de la littérature, c'est que ces autres politiques, eh bien, on ne sait pas très bien les effets qu'elles ont. Certaines études trouvent des effets positifs, d'autres pas.
Puis des sujets dont on parle beaucoup.
Exactement. Alors que si on regarde la littérature, il y a un véritable consensus sur le fait que un bon enseignant, ça a un effet important sur les enfants.
Alors, ce qui est passionnant, c'est que là, on a parlé surtout des notes, mais d'après votre étude, on voit aussi l'influence qu'ont les enseignants sur d'autres sujets que les notes. C'est pas toujours là où on l'attend. Donc, les notes de maths, en fait, c'est pas vraiment ce qui compte pour le développement d'un enfant, ou pas que.
Alors, effectivement, on a l'habitude d'évaluer les enseignants en fonction de leur impact sur les notes, les performances scolaires. Ça compte, c'est important,
bien sûr.
Mais en fait, l'effet d'un enseignant peut aller bien au-delà des notes. Et ce qui est intéressant dans les données que j'utilise, c'est qu'en fait, on a des informations à la fois sur les notes en maths, mais aussi sur ce qu'on appelle les capacités non cognitives. Alors, qu'est-ce que c'est, ces capacités non cognitives ? C'est par exemple l'estime de soi, la confiance en soi, persévérer quand une tâche devient difficile, savoir communiquer avec les uns et les autres. qui sont des compétences et des capacités qui sont tout aussi importantes finalement pour réussir à l'école, mais aussi après, plus tard, sur le marché du travail ou dans la vie en général. Et donc la question que je me suis aussi posée, c'est est-ce que les enseignants, en plus d'avoir un effet sur les notes en maths, vont avoir un effet sur ces capacités non cognitives. Et donc, j'utilise la même méthode de valeur ajoutée pour regarder ces effets sur les capacités non cognitives, et je vois qu'il y a aussi un large effet des enseignants sur ces capacités non cognitives, et cet effet des enseignants perdure dans le temps. C'est-à-dire qu'avoir un enseignant qui, à un moment donné, va nous permettre d'acquérir plus de confiance en soi, plus de persévérance, etc., ça, on va continuer à l'avoir pour les années d'après.
Pour toute la vie, presque. Voilà. Alors, ce que vous montrez aussi, c'est qu'un bon enseignant en primaire, ça joue, donc vous parlez de long terme, vraiment très long terme, puisque ça impacte aussi les chances d'entrée à l'université des enfants. Là, on parle bien des maîtres et maîtresses de primaire et d'une entrée à l'université.
Alors, effectivement, dans une deuxième partie de l'étude, je regarde dans quelle mesure avoir eu un bon enseignant en primaire va avoir des effets à l'âge de 18-20 ans sur un certain nombre de résultats possibles. Donc par exemple l'entrée à l'université, les aspirations en termes de marché du travail, donc quels revenus on pense pouvoir avoir à l'âge de 30 ans. Et je vois que avoir eu un bon enseignant qui a à la fois amélioré nos notes en maths ou alors qui a amélioré nos capacités non cognitives, ces deux aspects-là sont très importants pour expliquer notre probabilité, par exemple, d'aller à l'université.
Ça se retrouve dans les chiffres. La proportion chiffrée d'enfants qui intègrent l'université est plus élevée quand on a eu un bon prof.
Alors, je peux vous donner le chiffre. On voit que quand on a eu un meilleur enseignant en maths ou en termes de capacité non cognitive, ça a augmenté de 3 points de pourcentage la probabilité d'aller à l'université à l'âge de 18-20 ans.
Alors la question qu'on se pose tous maintenant, c'est comment est-ce qu'on reconnaît ce bon prof pour nos enfants? On a vraiment envie qu'il l'ait. Comment est-ce qu'on le reconnaît et quelles sont ces fameuses compétences qu'il doit avoir?
C'est là que les choses se compliquent. C'est-à-dire que dans l'étude, une fois que j'ai identifié un peu ces mesures de valeur ajoutée, j'essaye un peu d'ouvrir la boîte noire et de comprendre qu'est-ce qui fait un bon prof.
Bien sûr.
Et donc, je fais deux constats. D'abord, j'essaye de corréler ces mesures de valeur ajoutée en fonction des caractéristiques observables de l'enseignant. Par exemple, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme?
C'est vous, ça?
Alors, on voit que ça joue légèrement. Les femmes tendent à avoir une meilleure valeur ajoutée en termes de capacité non cognitive.
D'accord.
Mais globalement, si on regarde, par exemple, l'expérience, l'âge, la confiance en soi de l'enseignant lui-même, tout ça, en fait, on a l'impression que ça joue très peu. Ça permet d'expliquer très peu les différences de valeur ajoutée.
Alors, qu'est-ce qui va jouer?
Par contre, on a l'impression que quand on regarde ce qui se passe dans la classe et qu'on regarde en particulier les méthodes d'enseignement qui sont utilisées, là, ça semble jouer et mieux expliquer les choses. Donc, par exemple, est-ce que l'enseignant va mettre en place des activités de groupe? Est-ce qu'il va faire en sorte de faire participer les enfants dans la classe, leur donner un feedback régulier sur leur performance, leur comportement, etc. Il semble que ça a un impact sur les notes et les capacités non cognitives des enfants.
D'accord. Et alors, vous parlez effectivement de ces deux pôles, ces deux aspects, les notes et les compétences non cognitives. Est-ce que le bon prof de maths ou le bon prof de français, c'est aussi celui qui développe les capacités non cognitives ou est-ce que c'est deux champs de compétences complètement différents?
Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ces deux champs de compétences ne semblent pas vraiment corrélés. Quand on regarde dans les résultats, dans l'étude que je mène, c'est que les enseignants qui améliorent les notes en maths sont pas forcément les mêmes que ceux qui améliorent les capacités non cognitives. Donc on a l'impression en fait que c'est comme si certains enseignants se focalisaient sur améliorer les notes et d'autres se disaient non, finalement ce qui compte c'est plus d'une certaine manière le bien-être général de l'enfant et lui fournir des capacités non cognitives qui vont lui permettre de réussir par la suite. Donc ça semblerait que ça soit vraiment deux champs de compétences différents.
D'accord. Après, quand on voit la valeur ajoutée que ça apporte et les conséquences vraiment long terme, vous parlez d'entrée à l'université, vous parlez de niveau de revenu, on se dit qu'il y a quand même quelque chose à creuser et à faire. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'augmenter la valeur ajoutée de nos enseignants?
Alors,
question délicate.
Question délicate. Je pense qu'il y a plusieurs pistes possibles. D'abord, je pense qu'il faudrait pouvoir mieux identifier qu'est-ce qui est un bon prof de maths ou qu'est-ce qui est un enseignant qui améliore les capacités non cognitives. Et pour ça, je pense que on a besoin de davantage d'études, davantage de données. Parce que pour l'instant, il y a très peu de données qui mesurent, par exemple, ses capacités non cognitives à l'école et dans quelle mesure les enseignants peuvent avoir une influence sur ses capacités non cognitives. Donc je pense que d'abord, il faudrait peut-être de manière plus régulière instaurer des questionnaires à l'école sur le bien-être des enfants pour essayer de mieux capturer ces choses-là.
Donc impliquer les parents.
Potentiellement impliquer les parents.
D'accord.
C'est des questionnaires qui peuvent être, soit renseignés par les parents, soit renseignés par les enseignants. Enfin, ça dépend, plusieurs méthodes sont possibles.
D'accord.
Et puis, je pense qu'une fois qu'on a mieux cerné quelles sont les méthodes pédagogiques, par exemple, qui peuvent améliorer les choses, eh bien, peut-être qu'on pourrait imaginer former les enseignants davantage à ce type de méthode. Donc, par exemple, peut-être insérer un module dans leur parcours de formation, notamment sur comment prendre en compte les capacités non cognitives des enfants. Je pense que, dernier point, c'est que si c'est si important que ça d'avoir un enseignant à forte valeur ajoutée, eh bien, il faudrait essayer de faire en sorte de les valoriser, de les retenir, de...
Bien sûr,
voilà.
Absolument.
De faire en sorte qu'ils aient envie de continuer à avoir un effet sur les enfants et rester dans le système éducatif.
À faire ce métier dont on a vraiment besoin pour
Exactement.
Nos enfants. Merci beaucoup Sarah, c'est vraiment passionnant.
Merci, merci beaucoup.
Alors si vous souhaitez en savoir plus, toute l'étude de Sarah est disponible sur le site internet de l'Observatoire du Bien-être, cprémap.fr, et elle s'intitule « Ces enseignants qui nous marquent ». Une occasion de découvrir également d'autres sujets qui touchent au bien-être des enfants, puisque l'Observatoire s'y consacre cette année. Et vous pourrez ainsi savoir si avoir des bonnes notes, ça suffit pour être heureux quand on a 15 ans. Merci, à très bientôt.